Salut à toutes et à tous, bienvenue dans Sortie de veille, le podcast hebdomadaire de Mac Génération. Un smartphone ChatGPT, ça vous dirait ? C'est la rumeur un peu folle qui circule depuis quelques semaines. Avec l'aide de Johnny Ive, OpenAI serait en train de préparer un concurrent à l'iPhone. Ce smartphone haut de gamme ferait évidemment la part belle à l'IA et il pourrait sortir dès l'année prochaine. Est-ce un projet vraiment crédible ? On va en discuter avec Christophe. Dans cette émission, on va également parler de la crise de la RAM qui n'en finit pas de toucher les Mac, de nouvelles indiscrétions sur iOS 27 et de la déconfiture de Siri qui coûte 250 millions de dollars à Apple. Nous sommes le vendredi 8 mai, voici les infos de la semaine qu'il ne fallait pas manquer. Et oui, vous pouvez nous écouter dès vendredi exceptionnellement. Bon, on adapte un peu les enregistrements et la diffusion au mois de mai qui est bourré de jours fériés. Hein. Salut Christophe, ça va ?
Salut Stéphane, oui ça va, alors justement j'ai une question à te poser, alors tu me convoques un 1er mai, mais là le 8 mai t'es en grève par contre.
Et oui, on adapte, chaque rédacteur fait son jour férié, moi c'était le 1er mai, et toi je sais que par contre tu vas travailler effectivement le 8 mai, hein. Chacun sa peine.
Sinon tout va bien parce que bon, bah, c'est une semaine où il y a un nouveau bracelet pour Apple Watch, un nouveau cadran, oui, alors j'en ai profité pour installer la release candidate et voilà, moi je suis très content, il me faut pas grand chose tu sais des fois. Et toi, ça va,
c'est vrai que ce nouveau cadran, alors je l'ai pas encore installé mais il a l'air plutôt joli et puis bien personnalisable.
Alors, il est joli. Alors, il y a des fois eu des cadrans. Alors, je crois que c'est justement des cadrans Pride, où des fois, ils cherchent à faire des cadrans qui sont tellement pétants, ou qu'il y a des couleurs qui partent dans tous les sens, que tu n'arrives pas à lire l'heure. C'est quand même un petit peu dommage pour une montre. Mais celui-là, il souffre pas trop de ce problème. Par contre, il y a un petit truc qui est dommage, c'est que lorsque tu es avec l'écran toujours allumé, donc il affiche pas toutes les couleurs, il est plutôt sobre, et avec un petit trait de couleur ici ou là. Et ben en fait, je le trouve presque plus joli que lorsque il est en mode où tout s'affiche. Et c'est d'accord. Presque dommage qu'on n'ait pas l'option. Il y a plusieurs cadrans comme ça de WatchOS qui tu te dis ah oui, si on avait cette option de garder toujours le cadran en version sobre, ce serait pas mal.
Effectivement. Ouais. Sinon, c'était la reprise de la F1. T'es content?
Pourquoi tu me poses cette question ? On est où, là ?
Parce que Apple diffuse la F1 aussi, c'est pour ça que je me permets de...
Alors, j'ai des choses à dire. Alors, on ne va pas parler de la réglementation de la F1, sinon il va falloir inviter Greg et on va... Je crois qu'on va vite embêter les gens. Non, je n'aime pas cette Formule 1 à la sauce Mario Kart où les pilotes ont des champignons cachés derrière leur volant et qui tout d'un coup se retrouvent à doubler un pilote qui était 200 mètres en avant et tu dis comment c'est possible. Mais bref. Non, alors le seul truc que je peux dire sur la F1 et qui va peut-être en intéresser certains, c'est que je me suis dit « Ah bah, ce serait marrant qu'on fasse, entre guillemets, un petit test de l'expérience Apple, sachant qu'on a un compte à la rédaction américaine, on s'est dit que ça devrait être possible. »
Parce que voilà, rappelons que Apple diffuse la F1 seulement aux États-Unis.
Exactement.
Ouais, pour l'instant.
Voilà, nous on doit se contenter de la MLS, mais c'est tellement fabuleux. Donc, on s'était dit, oh, avec un peu de chance, en prenant un VPN et en se connectant aux États-Unis, ça marche. Alors, c'est très marrant parce que, effectivement, lorsque tu utilises un VPN qui se connecte sur des serveurs américains, tu as accès à certaines choses auxquelles tu n'as pas accès, justement, en Europe. Je crois que, par exemple, on est d'accord que le film de la F1, il n'est toujours pas sorti chez nous.
Parce que la chronologie des médias, donc, est toujours pas là.
Voilà. Bah, donc, en utilisant un VPN, tu peux filouter, tu peux regarder le film, par exemple. Et tu peux accéder comme ça à des contenus, alors F1 ou hors F1, que tu n'as pas accès en France. Mais par contre, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils fabriquent, mais alors, les retransmissions de Grand Prix, c'est pas possible. Donc voilà, pour ceux qui espéraient, ne pensez pas utiliser le service d'Apple pour regarder de la F1, sachant que j'ai cru comprendre, j'ai lu ça sur l'équipe à toute vitesse, je crois que les droits de la F1 en France...
Se terminent en 2029, si on a lu le même article, je pense. Ouais.
Tu es imbattable. Siri ne pourra jamais t'égaler. la question se pose, est-ce que... Parce que chez Apple, on dit, oui, on pourrait éventuellement s'étendre à de nouveaux territoires, tout en disant qu'on n'est pas non plus pressé. Enfin, il y a une sorte de double jeu, double langage. Je pense qu'il y a aussi la F1 qui s'inquiète un petit peu de voir ce que va donner la couverture par Apple, parce que on n'est pas sûr que ce soit un succès. Aux États-Unis, il y a la question de la MLS, où finalement la couverture par Apple, bien que ce soit proposé maintenant gratuitement aux abonnés d'Apple TV, il y a des petits problèmes d'audience qui fait que la ligue de foot la ligue de soccer, on va dire, a perdu un petit peu en visibilité sur le territoire américain.
Bon, pour ceux qui ne sont pas fans de sport, on va passer au sujet principal de la semaine. C'est cette rumeur de smartphone OpenAI. Alors, ce n'est pas un mystère, le créateur de ChatGPT est en train de concevoir des appareils depuis plusieurs mois. Pour mener à bien cette nouvelle activité très complexe, Sam Altman s'est entouré de Johnny Ive et de ses plus fidèles collaborateurs. Alors, il y a beaucoup de spéculations sur leur projet. On a parlé d'une petite enceinte connectée, d'un pendentif ou encore de lunettes. Il faut dire que les deux compères entretiennent savamment le mystère. Et voilà maintenant qu'on parle d'un appareil qui serait beaucoup plus classique, puisque ce serait un smartphone. Alors la rumeur ne vient pas de n'importe qui, c'est l'analyste Ming-Chi Kuo, qui est généralement bien renseigné, qui en est à l'origine. D'après lui, OpenAI s'est rapproché de Qualcomm et de MediaTek pour disposer d'un système sur puce spécifique. La boîte voudrait notamment innover sur le logiciel en mettant l'IA au cœur du système, pour proposer une expérience ultra personnalisée. Mais est-ce que tu crois vraiment qu'OpenAI va se lancer dans cette galère? Parce que moi, je repense à Amazon et Facebook qui ont essayé à une époque et qui s'y sont cassés les dents.
Oui, effectivement. Alors, il y a beaucoup de choses à dire. Tout d'abord, moi, je trouve marrant de penser à Johnny Ive qui est en train de redessiner un smartphone. On a l'impression qu'il avait fait un peu le tour de la question.
Oui.
Je pense qu'il était bien content de dessiner d'autres choses. Hein, quand il s'est amusé, on a bien vu récemment qu'il s'est beaucoup amusé avec Ferrari. J'ai cru comprendre que sur ce projet, sa motivation n'était pas au zénith. Et puis, je crois qu'il, quelque part, il cherche à régler son compte au smartphone. Il se rend compte que cet objet a, sur certains points, changé la face de l'humanité. Mais il n'y a pas que des bons côtés. Alors oui, comme tu le dis, Facebook, ça n'a pas marché, Amazon non plus. Mais je pense que la proposition d'OpenAI va relancer un vieux débat. C'est un débat qu'on a depuis une éternité sur iOS, qui est le débat application contre service. Jusqu'à présent, les applications ont toujours gagné. La logique applicative, les gens sont habitués à ça. Voilà, vous avez besoin de faire une tâche, vous lancez une application pour la faire et point. Mais il faut dire que l'intelligence artificielle, ça doit en théorie un petit peu rabattre les cartes. Alors je pense que le problème pour OpenAI, ce serait d'être trop radical. Et alors je ne sais pas à quel point on a des détails sur ce smartphone-là, mais je pense qu'il serait quand même bien inspiré donc de proposer une toute nouvelle approche, mais en même temps de proposer une couche de compatibilité avec Android, histoire d'avoir quelques applications, car tout ne sera pas forcément, tous les services du web ne seront pas forcément intégrés à OpenAI comme ça en quelques mois.
Ah, de toute façon, je ne vois pas comment ils pourraient faire sans Android. Ils vont se lancer sur un nouveau système.
Alors méfie-toi, on est d'accord, mais il serait capable de dire on va révolutionner ces smartphones, vous allez voir ce que vous allez voir, et puis avoir un objet qui soit un ovni complet, c'est déjà un petit peu arrivé, et puis qui soit fait un carton, soit se plante totalement. Ceci dit, c'est pas quelque chose à prendre à la légère pour OpenAI. Moi, je pense qu'ils sont très sérieux, parce que OpenAI cherche à développer des revenus, et forcément, vendre des smartphones, ça peut être intéressant, et Sam Altman l'a bien dit, la finalité pour OpenAI, pour sa société, c'est quand même de vendre du matériel. Et là, il s'est toujours dit qu'il était sur ce point-là en lutte frontale avec Apple. Alors, c'est d'autant plus cocasse qu'il réalise un objet avec, l'ancienne tête grise d'Apple. Enfin bref. Mais donc oui, de toute façon, il y a une chose qui est certaine pour finir, c'est que, quoi qu'il en soit, l'intelligence artificielle va révolutionner nos smartphones et tous nos appareils électroniques à terme. Et là, ce qu'on fait pour l'instant, c'est vraiment une version 1.0. C'est-à-dire, on lance une application, on écrit des choses dedans, et puis après on fait des copier-coller ou ce genre de choses. Enfin, on n'en est qu'au début. Et à un moment donné, bah, c'est sûr que ce soit Siri ou ChatGPT, il va falloir que ces appareils-là deviennent beaucoup plus proactifs. Je vais prendre un exemple tout bête, et c'est vraiment niveau zéro. J'ai été étonné, alors je ne sais pas si c'est un changement avec iOS et WatchOS 26.5. J'arrivais au supermarché, et je regarde ma montre, et je vais dans ma liste de widgets, et tout d'un coup, il m'affiche, il me propose d'afficher rappel et l'application rappel et ma liste de courses. La première fois, je me dis, oh purée, il progresse chez Apple. On voit qu'Apple Intelligence fait des progrès tous les jours. Mais à un moment donné, ça devrait même aller beaucoup plus loin. C'est-à-dire que quand on voit des démos sur ce que doit être le futur, c'est qu'à un moment donné, donc quand j'entre dans le supermarché, il doit automatiquement me lancer un énorme widget ou l'application rappel et me dire, voilà tout ce que tu dois acheter. C'est vraiment qu'un exemple. Mais voilà où on doit aller en théorie.
Bon, on va sûrement en reparler, mais avant ça, on va continuer avec le fil rouge de l'année 2026, à savoir la crise de la mémoire. Vendredi dernier, Apple a retiré de son catalogue le Mac Mini d'entrée de gamme, celui qui comprenait 16 Go de RAM et 256 Go de stockage pour 699 €. Résultat, le Mac Mini démarre maintenant à 949 € avec 512 Go de stockage. Et mardi soir, ce sont plein d'options de RAM qui ont disparu pour le Mac Mini et le Mac Studio. Alors pour le Mac Studio, il ne reste plus qu'une capacité de RAM par type de puce. Et pour le Mac Mini, c'est à peine mieux. Et malgré ça, ça n'a pas amélioré les délais de livraison, puisqu'il faut toujours attendre plusieurs semaines pour recevoir une de ces machines. Mais dans le même temps, on apprenait qu'Apple était en train de faire une razzia de RAM sur le marché, et que cela pénaliserait notamment les fabricants chinois, qui ont des difficultés pour proposer des smartphones très haut de gamme, puisque ceux-ci sont généralement très généreux en RAM. Alors c'est un malheur ou une bénédiction pour Apple cette crise ?
Alors avant de répondre à ta question, j'en ai une autre. Est-ce que tu crois qu'ils vont faire la même chose tôt ou tard avec le MacBook Neo ?
Tu veux dire enlever l'entrée de gamme ?
Oui.
À 256 Go.
Oui.
C'est bien possible parce qu'ils ont l'air d'avoir du mal à suivre la demande. Donc, il faudra peut-être une mesure radicale, entre guillemets, pour réussir à en vendre des quantités quand même suffisantes. Ouais. Ouais, mais ça serait dommage parce que bon, le prix de 699 € est effectivement très attractif, mais peut-être. Hein. Et puis, si tout le monde peut avoir du Touch ID par défaut, c'est pas plus mal.
Oui, j'en ai d'accord. Sinon, pour répondre à ta question, bah, c'est un vrai sac de nœuds pour Apple comme pour d'autres. Mais je pense que pour Apple, c'est un bonheur, c'est une vraie opportunité. Car à la fin, l'équation est très simple. À la fin, c'est Apple qui a les poches les plus profondes. Et donc, elle cherche tout simplement à profiter de la crise pour épuiser la concurrence. Et puis, justement, non seulement elle a les poches qui sont très profondes, mais elle bénéficie également de son positionnement qui est premium. Alors, c'est beaucoup plus facile pour Apple d'absorber les coûts que pour ses concurrents qui sont sur le milieu ou l'entrée de gamme. On a fait un article cette semaine où l'on montrait que l'iPhone 17 était devenu le téléphone le plus vendu au monde au premier trimestre. Bon, ce qui est assez logique, d'habitude, au quatrième trimestre, souvent les modèles Pro et Pro Max, puis en théorie, c'est le modèle standard de la gamme qui prend le relais après quelques mois de commercialisation. Donc, comme d'habitude, hein, tu avais les 3 ou 4 premières places qui étaient occupées par des iPhones. Et donc, le premier appareil non Apple, c'était un smartphone Samsung. Et tu sais à combien était vendu ce modèle ?
100 $.
Oui, c'est ça, entre 100 et 120 € grosso modo à la louche. Alors, t'imagines, les marges, c'est pas les mêmes, je pense, sur ce genre de produit. Alors, même si Samsung a la caractéristique d'être présent et d'avoir une bonne place sur tous les segments de la gamme, bon, moi, j'imagine que dans l'entrée de gamme, ça doit être un peu plus compliqué.
C'est pour ça que, pour en revenir au sujet précédent, un smartphone OpenAI, j'ai un peu du mal à croire en ce moment, parce que c'est le pire moment pour se lancer. Avec la crise de la mémoire, pour un nouvel acteur, se lancer maintenant, c'est compliqué, quoi.
C'est compliqué, mais peut-être aussi que c'est le moment d'avoir une opportunité de proposer un smartphone qui soit un petit peu différent ou avec une logique économique un petit peu différente, parce que OpenAI va te vendre un smartphone avec un abonnement.
Ça, avec un service.
C'est une évidence. Hein. mais oui, alors Apple pratique, on va dire, la politique de la terre brûlée. Et elle a comme ça... une gamme d'appareils, on a l'impression, enfin, j'en ai vraiment l'impression qu'ils ont anticipé le coup. Donc voilà, justement, donc on va dire des appareils anti-crise. Moi, je pense notamment à l'iPhone 17 et au MacBook Neo. C'est des appareils qui proposent, je trouve, un équilibre qui est quasiment parfait. C'est-à-dire que lorsque tu achètes un iPhone 17, eh ben, écoute, t'es pas frustré de prendre autre chose. Et le MacBook Neo, on se rend compte qu'il répond sans doute à 80-90% des besoins de la plupart des utilisateurs. Donc, et Apple se permet d'être relativement agressive, donc ça lui fait, donc non seulement elle a deux best-sellers, et pendant ce temps-là, la concurrence grimace. Et peut-être qu'elle reverra un petit peu son équation sortie de la crise, est-ce qu'elle en profitera tôt ou tard pour remonter les prix ou je ne sais quoi, on verra, mais je trouve qu'Apple joue remarquablement bien sa carte en ce moment et je suis impatient de voir les chiffres de part de marché de l'iPhone pour ces deux ou trois prochains trimestres. Par contre, on est bien d'accord, si tu cherches actuellement un Mac avec 32 Go de RAM pour jouer à OpenClaw, malheureusement, c'est une autre histoire.
Vous le savez sûrement, on n'est plus qu'à un mois de la WWDC et Mark Gurman est en train d'égrener les révélations comme il sait si bien le faire à cette époque. Alors, selon le journaliste de Bloomberg, sur iOS 27, on pourra importer n'importe quel billet dans Wallet. Il suffirait de scanner le pass en question pour le retrouver aux côtés de ses autres cartes. Ça devrait être pratique pour tout retrouver au même endroit, même si j'espère qu'Apple va proposer des options d'organisation, parce que à la fin, on se retrouve avec beaucoup de cartes et c'est difficile de faire le tri. Et puis, c'était un sujet qu'on avait abordé la semaine dernière, il va y avoir des nouveautés en matière d'intelligence artificielle. On pourrait notamment sélectionner des modèles d'IA de tierce partie pour certaines tâches, comme la génération de texte ou d'images. Actuellement, Image Playground intègre déjà de la génération d'images par ChatGPT, donc on imagine qu'il deviendra possible de sélectionner Gemini à la place. Et Siri pourrait aussi s'appuyer sur un autre service que ChatGPT lorsqu'il a atteint ses limites. Donc c'est plutôt intéressant, parce que chacun a ses préférences entre Gemini, Claude ou autre. Mais ça soulève des questions. Christophe, à quoi vont encore servir les modèles d'Apple, ceux qui sont censés être à la base d'Apple Intelligence, si on peut les remplacer par d'autres ?
Tout d'abord, je tiens à dire que les rumeurs autour d'iOS 27, je les trouve relativement intéressantes. On voit qu'Apple cherche à intégrer, on va dire, au plus profond de son logiciel, certaines fonctionnalités. Et c'est tout bête, le scan de carte de fidélité ou de ce type de là, mais ça peut être super pratique.
Ouais, clairement.
De toute façon, il faut être clair. L'urgence pour Apple actuellement, c'est de mettre, et c'est ce que je disais, l'intelligence artificielle au cœur de ses produits et systèmes d'exploitation. C'est vraiment la priorité numéro un. Et là, je te pose une question. Est-ce qu'on a à ce jour un produit concurrent qui propose une intégration très très abouti de l'intelligence artificielle dans ses produits?
Pas vraiment, sûr, hein. Non. Android, Google fait des choses aussi avec Android, mais ça reste encore très... Je pensais en fait à l'intégration des modèles Gemma dans Android, qui permettent de faire de l'IA en local. Ça, c'est encore très early, entre guillemets, un peu comme Apple Intelligence, mais quand même, sur Android, t'as Gemini, donc l'équivalent de Siri, et Gemini est beaucoup plus poussé que Siri. Donc,
c'est ça.
Sur ce point-là, Android est en avance.
C'est ça que je voulais préciser, c'est-à-dire que je pense que la concurrence, et notamment Google, est en avance, mais c'est pas la fin d'histoire, on n'est vraiment qu'au début, c'est ça que je voulais dire. Après, je sais pas, il y a beaucoup d'applications dans le monde de l'intelligence artificielle qui te laissent le choix du modèle que tu veux utiliser. Alors, écoute, dans cette optique, pourquoi pas Apple ne ferait pas la même chose, et elle a tout intérêt, finalement, dans la position qu'est la sienne à l'heure actuelle, de jouer la concurrence et de donner le choix à ses utilisateurs, dire, toi, tu veux utiliser Claude. Enfin, on le voit d'ailleurs tous, autant qu'on est dans la rédaction, on utilise, enfin, il y en a qui sont plus Gemini, il y en a qui sont plus Claude, il y en a qui sont plus ChatGPT, il n'y a pas une solution qui fait l'unanimité. Et alors, je pense que le développement des modèles Apple, ça viendra dans un second temps. Mais à mon avis, il faut vraiment voir ça à moyen terme, et je pense que ça viendra à un moment où Apple pivotera de stratégie. Je pense que l'intérêt, on va dire, c'est assez compliqué de dire, on va dire à 2, 3, 4 ans d'Apple, c'est de développer, entre guillemets, des petits modèles qui soit ultra spécialisée et qui soit capable de tourner en local. On sait qu'elle fait déjà plus ou moins ça, enfin on voit des travaux dans ce sens-là. C'est les clés de sa stratégie à mon avis, c'est ce que... Enfin, quand on voit tout ce qu'Apple a fait ces dernières années, c'est ce qui semble le plus logique. Mais alors, en attendant, ça demande déjà une plus grande maturité de ces technologies. Ça évolue encore très très vite et je pense que il y a quand même, en termes d'optimisation, beaucoup de progrès qui sont devant nous. Et ça demande également des progrès dans le silicium. Et le jour où elle pourra dire, voilà, bon, j'ai des modèles et j'ai tout ce qu'il faut pour faire plus ou moins le même travail en local... Là, peut-être qu'elle pourra effectivement revenir plus tranquillement vers ses modèles et dire « Regardez, j'ai à nouveau le contrôle sur la technologie dans le domaine de l'intelligence artificielle. » Je pense que ça, c'est le but, on va dire, vraiment à moyen terme. Mais vraiment à court terme, c'est de se remettre dans la course à l'intelligence artificielle et ce, par tous les moyens.
En parlant d'IA, on termine le tour de l'actu avec les conséquences du fiasco Siri. Souvenez-vous, à la WWDC 2024, Apple annonçait un nouveau Siri plus intelligent, capable de répondre à des questions personnelles et de réaliser des actions dans les applications. Mais 2 ans plus tard, on l'attend toujours. Et ça a énervé des consommateurs américains qui se sont sentis lésés et qui ont intenté une action collective contre Apple. Il faut dire qu'Apple avait même diffusé une pub mettant en avant le nouveau Siri. C'était pas juste une annonce à la WWDC, hein, ça a servi d'argument marketing au moment du lancement des iPhone 16. Et l'affaire judiciaire s'est terminée cette semaine, enfin en tout cas récemment, par un règlement à l'amiable qui prévoit qu'Apple verse 250 millions de dollars pour les clients lésés. Alors c'est pas 250 millions de dollars par client, hein, malheureusement, hein, mais c'est au total. Donc ça fera 25 $ par appareil éligible, ou bien 95 $ si le nombre de participants est faible. Autant Apple fait parfois traîner des affaires en longueur, autant là, c'est aller vite. Hein.
Ouais, j'ai une petite colle pour toi. Tu te souviens si ce spot publicitaire avait été diffusé en France ?
De mémoire, non. De mémoire, il avait été seulement diffusé aux États-Unis parce qu'en plus, Apple Intelligence sortait seulement aux États-Unis à l'automne. Donc, je crois qu'il n'avait pas diffusé en France. Ouais.
D'accord, ok. Donc, on ne peut pas râler le fait qu'il n'y ait pas eu un truc similaire en France. Alors, je sais que les class actions en France sont légèrement différentes.
Tu voudrais lancer une class action en France, c'est ça ?
S'il y a moyen de récupérer 25 pour 50 ou 100 euros, moi, c'est avec plaisir. Non, mais c'est ça, tu dis, même les avocats d'Apple qui sont aussi brillants que certains ingénieurs des équipes de pointe en développement logiciel ou matériel, on dit non, là c'est pas jouable, on va laisser tomber, on va gagner du temps, on va faire un chèque, et puis comme ça, on n'en parle plus, parce que je pense que Siri est devenu un véritable boulet pour Apple. Et je l'ai dit et je le répète, enfin, la première grille de lecture de la WWDC cette année, c'est Siri et rien d'autre. Alors, je sais qu'il y aura des petites fonctions ici ou là qui seront très 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 sympas. J'espère que, on va dire, ce cru Snow Leopard améliorera par exemple l'autonomie de nos téléphones et pourquoi pas de nos montres. Mais voilà, Apple est vraiment dos au mur et il faut impérativement montrer des progrès significatifs dans le domaine de l'intelligence artificielle, surtout si Tim Cook veut laisser son successeur dans les meilleures conditions possibles à la rentrée.
Eh bien, merci pour ce retour sur l'actu, Christophe, et bon week-end.
Bon week-end, profite bien de ton long week-end.
Merci, ouais. Et puis, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Sortie de Veille. Salut à tous, bon week-end.